Et c'est Wendy Bouchard qui vous accompagne sur Europe 1 jusqu'à 11h. Bienvenue à vous en ce lundi 21 janvier. Il est 9h.
Europe 1.
9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour faire le tour de la question avec vos témoignages au service de l'actualité. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Et 84 000 gilets jaunes encore mobilisés samedi en France, malgré le lancement du débat national. Mobilisation record à Toulouse, des incidents encore à déplorer à Angers, Paris ou Bordeaux en fin de manifestation. Pourquoi ces hommes et ces femmes sont-ils encore dans les rues? Est-ce qu'ils participeront d'une manière ou d'une autre aux échanges ouverts par le gouvernement? Et que changera pour eux comme pour nous le grand débat? On fait le tour de la question avec eux. Ils nous attendent depuis Toulouse, depuis Rouen ce matin, Nantes également dans l'heure, des gilets jaunes mobilisés. En studio également un représentant et Michaël Darmon, pas représentant mais il est gilet jaune tout simplement comme tant d'autres citoyens. Et Michaël Darmon qui est là pour le service politique d'Europe 1. Bonjour Michaël, éditorialiste maison. Et puis à 10h, à l'occasion des 30 ans de l'opération gilet jaune, pour pièce jaune pour les enfants hospitalisés, on s'intéresse aux dons des Français pour les associations. Comment cette générosité évolue-t-elle? Des dons contrariés par la hausse de la CSG, mais une solidarité qui se réactive, vous le savez bien, au gré des cagnottes lancées pour des causes variées. Venez nous dire aussi pour qui et pourquoi vous donnez. On vous écoute, le standard est ouvert, Julie.
Le 39-21 et vous avez le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
Bienvenue jusqu'à 11h.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec le lancement par Emmanuel Macron d'un débat national censé canaliser 2 mois de colère sociale qui n'aura donc pas découragé 84 000 gilets jaunes qui se sont mobilisés samedi encore pour l'acte 10 de la contestation. Vous étiez dans les rues aussi, Sylvain. Bonjour Sylvain Petit.
Faut que j'appuie sur le bouton là.
Non, ça y est, vous êtes à l'antenne. Bonjour, avec le gilet jaune en vidéo également sur Europe 1.fr. Vous étiez dans le cortège samedi.
Oui, cette fois oui.
Oui, cette fois oui. C'était la première fois?
Oui, c'est la première fois pour moi parce que je suis musicien, je suis intermittent du spectacle et donc je dois souvent travailler le week-end, donc je ne peux pas toujours me permettre. Mais là, j'y étais parce que je ne travaillais pas samedi, donc j'y suis allé.
Et voilà, pour l'acte 10 de la mobilisation, comme vous à Toulouse, Benjamin Cauchy, bonjour.
Bonjour.
Porte-parole des Gilets jaunes à Toulouse et fondateur des Gilets jaunes libres. Toulouse qui a connu sa plus forte journée de mobilisation samedi. Près de 10 000 manifestants dans les rues. Comment vous l'expliquez, Benjamin Cauchy?
Mais écoutez, c'est un beau succès. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas le porte-parole des Gilets jaunes de Toulouse. Hein. Il y a de nombreux groupes qui organisent sur Toulouse. Et c'est le peuple toulousain qui se réveille chaque samedi. Effectivement, c'était un beau succès à Toulouse. Il n'est pas à parier que samedi prochain, ce soit encore plus beau.
Oui, vous dites à Paris aussi, Sylvain Petit, en effet, 7000 représentants
oui,
à Toulouse.
Beaucoup plus, je vous garantis.
Ah, c'est des chiffres de la police. On oppose les contestations
si, pardon.
On oppose les contestations Paris-Province.
Non, pas du tout.
Ah,
non. Je n'oppose pas du tout à Toulouse, mais je dis que j'entends. D'après les chiffres de la police,
plus que 7000 à Paris.
C'est bien plus que ça. Ça avoisine les 30 000 parce qu'ils ne savent pas compter. Excusez-moi.
Ce sont les chiffres de la préfecture.
Bien sûr, oui.
Ça, c'est classique. Vous étiez beaucoup plus que 10 000 aussi, selon vous, selon les organisateurs de cette mobilisation, Benjamin Cauchy, à Toulouse également?
Ah oui, absolument. Je peux vous donner un exemple, pas celui de Toulouse, mais celui de Bordeaux, par exemple. Depuis 3 semaines, les Bordelais comptabilisent strictement le nombre de participants. Et ils comptent entre 12 et 15 000 chaque samedi. Et chaque samedi, M. Castaner en compte entre 4 et 5 000.
Voilà,
donc vous voyez un petit peu la donne.
Oui, voilà. On a fait pareil à Paris, c'est exactement la même chose.
Alors, en tout cas, guerre des chiffres ou pas, c'est une mobilisation, Michaël Darmon, qui ne s'essouffle pas. Elle a repris des couleurs même il y a 2 semaines. 84 000 manifestants, vous allez me dire,
c'est pas
énorme sur 67 millions de Français. Ça suffit pour faire parler beaucoup du mouvement et pour ne pas lâcher la pression sur le gouvernement.
Oui, absolument. Ce que l'on observe, en fait, au-delà de l'observation et des discussions effectivement numériques qui seront forcément toujours sans fin, il y a un constat qui est intéressant. C'est que, tout d'abord, comme on le prévoyait, le mouvement non seulement ne s'essouffle pas dans son soutien dans la population, mais il s'ancre de point de vue assez significatif. La dernière étude du Cevipof qui a été publiée par le Figaro qui montre que 60% des Français font confiance au principe de la démarche des Gilets jaunes, c'est effectivement très significatif. Et ce que l'on voit sur les dynamiques de manifestation, à Paris, à Toulouse, à Marseille, ailleurs, c'est qu'il y a quand même un nombre assez étal pour l'instant, effectivement, de gens mobilisés, sans rentrer dans la compétition des chiffres, et en même temps, une baisse de la violence. Mmh. Ça veut dire qu'il y a effectivement une évolution de ce mouvement vers un ancrage à la fois plus rationnel, plus politique, plus idéologique. On ne sait pas sur quel débouché politique il peut aller. Ce qui est significatif depuis tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à chaque fois que nos invités Gilets jaunes se sont présentés, ils ont tenu à dire « je ne suis pas porte-parole ». Donc il y a effectivement la question de la structuration qui est toujours un problème parce que ce mouvement se structure sur la non-structuration.
Et du coup, nous y perdons aussi.
Non, mais en fait, c'est très simple. Il se structure sur la non-structuration. C'est ça. C'est ça qui est intéressant parce que ça en fait un mouvement sociétal assez étendu et qui explique la difficulté aussi du pouvoir exécutif. De pouvoir l'appréhender.
Bah oui, comme par exemple.
C'est pas aussi simple que ça, excusez-moi.
Ah bah justement, j'avais expliqué que c'était compliqué.
C'est compliqué.
C'est pas simple, c'est vrai.
Mais par exemple, si on part à Rouen, on va rencontrer Olivier Bruneau qui tient à être présenté comme référent du rond-point des vaches à Rouen. Voilà, c'est extrêmement précis. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous étiez aussi mobilisé samedi à Rouen. Gros effet de solidarité dans les rues de la ville.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Une solidarité qui s'étend maintenant. Bien plus largement qu'à Rouen, hein, avec des rassemblements qui font venir nos collègues Gilets jaunes, aussi bien de Caen, d'Evreux, de Brionne, de Bernay. Ça s'étend, on ne reste pas sur la scène maritime, on est vraiment étendu avec un rassemblement solidaire et fraternel sur Rouen.
Avec une volonté quand même de se départir de la violence à Rouen comme à Bordeaux, la situation a dégénéré, on le sait, en fin de journée, de la même manière qu'à Paris aussi. Quel regard portez-vous sur ces violences quand même en fin de cortège, Benjamin Cauchy, qui continue de nuire à votre mouvement général ?
Moi, j'ai une petite idée là-dessus.
Je crois que le ministre de l'Intérieur l'a enfin compris, et le pouvoir exécutif l'a compris, puisque depuis samedi, acte 9 et acte 10, ils ont bien compris qu'il y avait des casseurs et qu'il fallait bien distinguer les casseurs du mouvement pacifique qui était les Gilets jaunes. Mmh. Donc ça, c'est déjà le premier point positif. La seconde chose, c'est que sur Paris, vous voyez qu'il y a eu un service d'ordre qui a été mis en place. Et puis, il y a d'autres options qui sont en train d'être mises sur la table, sur Toulouse et sur Bordeaux. Donc voilà, dans tout le sud-ouest, l'idée de faire des nocturnes beaucoup plus pacifiques, de manière à pouvoir y associer les commerçants et artisans qui étaient avec nous dès le 17 novembre, et de manière à rassembler le plus de population possible.
Ah, intéressant, Sylvain Petit. Intéressant aussi pour vous qui êtes artiste intermittent, d'avoir participé seulement lors de l'acte 10 aux manifestations dans les rues, pour une raison d'emploi du temps, mais peut-être aussi pour une raison de pacification du mouvement ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est vraiment une question d'emploi du temps, parce que je travaille pas mal la semaine, et puis le week-end aussi, donc j'ai pas...
Mais que les mouvements soient plus encadrés, cela vous parle davantage
aussi ? Ah oui, bien sûr, oui, mais je pense qu'ensuite, il y a beaucoup de manipulation dans ce qui se passe de toute évidence, parce que c'est pas... Ça fait longtemps que je suis... que j'ai été dans des manifestations intermittentes, notamment, et on voit bien comment les violences policières, je peux en parler. Vous voyez, j'ai une petite cicatrice là, entre les yeux, là, qui me reste de 2014, où j'ai pris des coups de matraque dans la gueule. Hein.
Oui. Donc, là, on est loin de la manifestation des Gilets jaunes, où certaines violences sont à dénoncer également.
On n'est pas loin, c'est bien la même police. Hein. Oui, mais c'est bien la même police. Si je vous racontais pourquoi j'ai pris des coups de matraque, vous seriez scandalisés, vous voyez. Donc, les violences, elles sont d'abord sociales, avant d'être dans la rue.
Oui,
et puis la troisième violence va être la violence policière qui réprime la violence sociale, que la violence de la rue éventuelle que la violence sociale a créée. C'est pas de moi, c'est de Edler Caramba.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence avec une contestation sociale sur le quotidien et qu'on en arrive aujourd'hui à entendre scander dans les rues des slogans contre les violences policières. Michaël Darmon, alors là, on est dans une sorte d'effet qu'on n'arrive plus trop à enrayer.
Vous l'avez bien cerné dès le départ. Une des raisons pour lesquelles les ronds-points commencent à devenir des lieux de gilets jaunes en contestation plus générale sur le projet social, c'était les comités de Français en colère dans les départements sur la limitation à 80 km/h. Mmh. C'est une des matrices, ça n'est pas la seule, mais c'est une matrice importante qui a commencé à structurer, parce que la révolte sur la taxe, elle est interclassiste. Et on a vu parmi ces gens qui étaient en colère, à la fois des gens qui avaient des grosses voitures et des gens qui avaient des petites voitures. Donc on avait un ensemble, je dirais, général des classes sociales représentées qui étaient en colère contre les 80 km/h et qui ont fourni, si je puis dire, le premier carburant à la colère des Gilets jaunes, qui ensuite n'attendaient au fond que cela pour, et là, quelque part, même Macron a raison, pour faire enflammer une colère qui vient de loin. qui en fait.
Et il le dit d'ailleurs dans tous ses débats. Hein, ça fait 30 ans
qu'on vient, organiser des protestations sur la manière dont les territoires ont été organisés, sur le fait qu'on ait dit aux Français acheter du diesel pour ensuite leur dire 10 ans plus tard le diesel, c'est pas bien, pour dire à beaucoup de Français allez acheter un petit pavillon dans une zone un peu plus loin et qui maintenant est devenue une zone déconnectée. Et tout cela avec les problèmes économiques, les fameuses régions dites périphériques déclassées, eh bien, ont commencé à organiser cette colère générale qui explose aujourd'hui à la figure du gouvernement.
Il a fallu qu'elle explose pour que finalement Macron dise deux, trois mots.
Mais alors ça, c'est une loi c'est une loi des gouvernements sous pression. Ouais. Ils ne réagissent que sous la colère.
Et c'est ce dont on va parler.
C'est une loi du capitalisme. Ça s'appelle une loi du capitalisme.
En tout cas, même dans les pays non capitalistes, on l'a vu.
Alors c'est aussi peut-être l'histoire de notre République.
Qu'est-ce que vous appelez les pays non capitalistes? L'URSS?
Sylvain Petit.
Il y a longtemps, et puis d'autres pays.
On fait une petite pause, s'il vous plaît. On donne la parole à tout le monde. Fracture sociale, fracture économique, fracture territoriale. En tout cas, quelques petits mots, vous disiez, Sylvain Petit. Il a parlé déjà deux fois 6h30 devant les élus, deux fois 600 maires, à la fois dans l'Eure et à la fois dans le Lot, Emmanuel Macron. Alors, on se demande pourquoi vous ne tendez pas davantage l'oreille, justement, suspendre peut-être le mouvement avant de reprendre éventuellement la mobilisation. Depuis Rouen, depuis Bordeaux, depuis Nantes, vous prenez la parole, Gilets jaunes aussi, citoyens représentés avec nous. Petite pause et on se retrouve, Julie, avec la question Facebook d'Europe 1.
Pensez-vous que les manifestations des Gilets jaunes soient encore utiles? C'est la question Facebook du jour. Non à 43%, il y a eu plus de 14 000 votes. 43% non. Non, bien sûr, nous dit Anne, il y a belle lurette que j'ai rangé mon gilet jaune. Lionel, il est temps de passer de manifestant à militant politique. Mmh. Et puis Samir, mon père m'a demandé, c'est samedi la saison 10 des Gilets jaunes, comme si c'était une série Netflix.
Oui, pourquoi ne pas accepter une pause le temps du débat? Benjamin Cauchy depuis Toulouse est avec nous, Olivier Bruno, gilet jaune à Rouen, Sylvain Petit à Paris, artiste intermittent, gilet jaune mobilisé, il était dans les cortèges pour cet acte 10. Nous retrouvons aussi à Nantes, Réjean qui est gilet jaune là-bas. Manifestation plutôt calme samedi avec 900 gilets jaunes rassemblés. Plus violente la manifestation du côté d'Angers. Bonjour Réjeanne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour nous dire pourquoi vous, à titre personnel et avec vos collègues nantais, vous poursuivez la mobilisation en dépit de ce grand débat annoncé maintenant il y a une semaine par Emmanuel Macron.
Attention, moi, en tant que gilet jaune, je ne participerai pas au grand débat d'Emmanuel Macron. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il ne nous écoute pas, il nous méprise, il nous insulte. Non, moi, je pense que l'action à faire, ce serait de faire des actions contre les banques. Parce qu'en fait, ça fait des années que les Français se font escroquer leur argent par les banques et par l'État.
Ça veut dire quoi, des actions contre les banques, Réjeanne? Action pacifique ou action violente?
Non, pacifique, bien sûr. Mais c'est-à-dire faire des actions pour réclamer aux banques qui rendent l'argent aux Français et aux services publics. Cet argent a été escroqué depuis des années et on doit le récupérer. On doit le récupérer parce que les Français ont besoin de cet argent pour vivre. Les hôpitaux et tous les services publics ont besoin de cet argent pour fonctionner. Et ça fait des années qu'on nous escroque cet argent.
Et vous préférez crier, revendiquer ce message, par exemple, dans les rues, plutôt que de vous attabler, d'échanger au niveau local, là où vous vous exprimez justement avec ce débat qui est fait aussi pour ça, Réjeanne?
Non, mais de toute façon, il ne nous écoutera pas, Macron. Il ne nous écoutera pas. De toute façon, je vais vous dire une chose, ceux qui nous gouvernent, c'est le monde de la finance. C'est le monde de la finance. Macron, lui,
tout à fait, Réjeanne.
Qui s'exprime? C'est Olivier Bruno.
Macron, c'est juste le pantin du monde de la finance.
Olivier Bruno,
il est là pour exécuter ce que le monde de la finance lui demande de faire.
Mais est-ce que vous n'avez pas peur, Olivier Bruno, qu'on vous reproche en ne participant pas au débat, justement, la main tendue, toute possibilité de dialogue? C'est-à-dire qu'en restant chacun dans ses œillères, dans ses revendications, parfois radicales et violentes, on ne crée pas les conditions d'une évolution démocratique, Olivier Bruno, à Rouen?
Mais écoutez, l'évolution démocratique en ce qui concerne Rouen, Nous l'avons démarré déjà depuis le 17 novembre. Mmh.
C'est-à-dire justement des échanges en local avec les élus.
C'est-à-dire que ce qu'il faut révéler aux Français quand même, c'est qu'il y a un véritable enfumage. Et nous dénonçons en fait l'injustice sociale et fiscale depuis le début. Il faut savoir que nous, dès le 22 novembre, nous nous sommes présentés en délégation auprès de Madame la Préfète pour déjà apporter les doléances et justement utiliser nos institutions démocratiques afin de nous permettre en fait d'être en relation avec le gouvernement et notre président. À savoir qu'au 20, depuis le 22 novembre, le lien qui avait été fait, c'est que M. Macron et son gouvernement se donnaient un délai à l'époque de 3 mois pour nous répondre. Toujours pas de réponse. Nous avons redonné des doléances 15 jours plus tard.
Bien sûr, vous comprenez bien, Olivier, qu'il va attendre très probablement la fin du débat au niveau national pour peut-être vous envoyer des réponses.
Là, c'est pas lui qui veut tout seul.
Bien sûr que non. Bien sûr que non.
Sylvain Petit, qu'est-ce qui vous gêne avec ce débat? Pardon, je
vous
donne la parole en studio.
C'est lui qui en fixe les concours. C'est lui qui en fixe les contours actuellement de ce débat.
Il en a fixé les 4 dimensions, en effet.
Ben oui, et voilà. Donc, c'est les Gilets jaunes qui ont obtenu qu'il y ait un débat qui se passe.
Et les maires qui ont été les premiers à ouvrir la cahier de doléances, les maires de France.
Sans doute, mais...
C'est sûr.
Et ensuite, les contours sont fixés par le gouvernement. Les maires qui sont invités sont invités par le gouvernement aussi, ça, on ne l'a pas dit.
Sont sélectionnés
par le gouvernement actuellement. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait un débat réellement démocratique?
600 élus qui, quand même, quand on regarde les 6h30 de marathon, ont une parole libre, Michael Darmon. Ils ne sont pas sélectionnés.
Ils peuvent être certainement choisis ou sélectionnés. C'est vrai qu'il y a pu y avoir certains qui ont protesté. Mais enfin, il y a eu, lors de la deuxième opus ou saison ou série comme on voudra de Macron face au maire
dans le Lot
un maire qui s'est levé et qui a quand même violemment et très virulement interpellé le président en disant arrêtez de mépriser, arrêtez de nous insulter,
oui,
quand est-ce que vous allez
le débat n'est pas là, il ne se limitait pas à cela
mais en tout cas il est établi qu'effectivement ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Après, là où la question peut effectivement se poser, c'est quel type de réponse. Ça c'est la vérité. Est-ce que les réponses institutionnelles, démocratiques, politiques de renouveau, telles qu'elles ont été exprimées dans la lettre aux Français par le président Macron, peuvent satisfaire les revendications actuelles des Gilets jaunes? En clair, est-ce que la fameuse tension entre fin du monde et fin du mois peut trouver un point de synthèse?
C'est au-delà de ça.
C'est évidemment encore beaucoup plus large que ça, mais il y a quand même cette position-là. Vous avez évoqué vous-même la grande revendication centrale des Gilets jaunes, qui est l'installation d'un référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que Macron va leur donner ou pas? Et dans cette mesure-là, ça sera de la capacité ou pas à juguler ou à faire calmer la colère. Vous savez, avec ce grand débat, moi j'ai toujours. Entre le grand débat et le grand déballage, il y a un pas à franchir, peut se franchir.
Oui.
Soit ça peut calmer le pays, soit ça peut continuer à le tendre.
Bah,
et cela, Macron joue ce défi-là et on verra ce que ça prendra dans les prochaines semaines.
Du côté de Sylvain Petit à Paris, c'est ce que disent un certain nombre de Gilets jaunes, tel qu'il est architecturé pour l'instant, ça ne vous convient pas.
Mais pas du tout, Si j'allais dans un débat actuellement, ce serait uniquement pour dire ça. C'est pas dans ces termes-là qu'on fixe un débat réellement, porteur d'apaisement et qui est réellement constructif.
Nous allons dans l'heure, dans un instant, rencontrer le porte-parole des Gilets jaunes de Brionne. C'est lui qui a organisé la rencontre avec Emmanuel Macron, rencontre en marge de ce déplacement face aux 600 élus. Il va nous dire ce qu'il en pense, Francis Di Giorgio, de ce débat, alors que l'acte 10 de la contestation s'est déroulé sous vos yeux, peut-être, c'était samedi, dans les grandes villes de France. À tout de suite.
À quoi rime encore pour vous la mobilisation des Gilets jaunes? Vous êtes encore 57% à trouver que c'est utile. Vous avez le standard à votre disposition, le 39-21. Wendy Bouchard.
On parlera dans un instant avec Michaël Darmon de la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui, pour la première fois depuis l'été, frémit un petit peu. Alors, est-ce l'effet de ses premiers débats engagés avec les élus en France? En tout cas, on se demande, avec des Gilets jaunes ici présents en studio, Sylvain Petit, on ne peut pas remettre en cause toutes les enquêtes faites par des instituts scrupuleusement fondés.
Il faut les remettre en cause.
Sylvain Petit, on peut remettre en cause des choses, mais bon, voilà, si on a quand même des étalons de référence...
Quand on sait que les instituts de sondage sont... Qui paye les instituts de sondage? Qui paye les médias? On peut se poser des questions quand
même. C'est encore autre chose. Il se trouve qu'un certain nombre d'enquêtes scientifiques recoupent les enquêtes que nous pouvons mener sur Facebook. Donc on est vraiment dans une sorte d'air du temps.
Et en tout cas, on les commente avec recul ici.
Exactement. Benjamin Cauchy, vous êtes Gilet jaune à Toulouse. Merci d'être avec nous depuis tout à l'heure. Quel sens vous donnez à ces mobilisations qui rythment les samedis, finalement, dans des dizaines de communes de France? Il y a des choses qui circulent sur Facebook. Facebook avec un nouvel agenda de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, gilet jaune, dimanche. Voilà, c'est devenu un nouveau jour, une nouvelle rythmique.
Ça prouve tout simplement que la mobilisation continue parce que nous ne sommes pas entendus. Le grand débat national est un Macron tour, c'est une opération de communication. Sylvain l'a bien exprimé, les sujets n'ont pas été choisis. Dans la lettre de cadrage, tel un sous-directeur de préfecture, finalement, le président de la République n'a pas parlé de la réindexation des retraites, n'a pas parlé de la réindexation des allocations d'adultes handicapés, des pensions d'invalidité.
Oui, il a
donc
ensuite
nous, le grand débat national, le faisons aussi sur change.org. Voilà, juste avant de vous laisser, je vous le précise, nous lançons une grande pétition ce matin pour la réindexation des retraites, des pensions d'handicapés et des pensions d'invalidité. Donc allez sur change.org, signez cette pétition pour que nous aussi nous puissions faire à notre manière, au XXIe siècle, avec le numérique, le grand débat national.
Je vais vous lire un tweet que je reçois à l'instant de Michel Monlaou, qui est citoyen comme nous tous, qui exprime sa lassitude vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes qui commence à ressembler à une exaspération. Désolé, me dit-il, Wendy, je vous aime bien, mais je zappe parce qu'on tourne en rond avec ce mouvement. Olivier Bruno, vous êtes toujours avec nous depuis Rouen, référent du rond-point des Vaches. Comment réagissez-vous à cette mention d'un auditeur, d'un citoyen libre aussi, comme vous ?
Mais écoutez, le problème, hein, comme l'ont dit certains collègues, la Gilets jaunes au préalable, c'est qu'il y a un véritable enfumage. On est complètement dans une dictature.
On ne peut pas dire ça, une dictature.
Bien sûr que oui.
On va vous faire voyager dans des dictatures, vous verrez que la liberté de la presse et la liberté d'expression, la liberté de manifester n'existe pas.
Comment acceptez-vous, par exemple, lors d'une manifestation il y a 15 jours, un confrère de 76 Actus de la presse locale rouennaise se fait agresser en tant que au niveau violence policière avec un flashball où il présente bien le fait qu'il fait partie de la presse et on le met en joue avec un flashball. Comment vous pouvez-vous dire que nous sommes en liberté de presse ou en liberté d'expression quand vous voyez que justement un membre des forces de l'ordre se permet de pointer un flashball à 1m50?
Mais finalement, pour revenir à ce que disait Michel à l'instant, oui, on a l'impression qu'on tourne en rond parce que dès lors que certaines revendications, de vos revendications, s'essoufflent et qu'on vous donne la parole, eh bien, vous les replacez sur un autre curseur, et en l'occurrence les violences policières qui deviennent finalement assez...
Revendications
au cœur de ces cortèges.
Qu'est-ce que vous voulez dire, nos revendications s'essoufflent ?
Non, quand elles sont entendues, là, en l'occurrence, vous demandez
elles
la parole.
Elles ne sont pas entendues,
on
demande d'abord, je pense que, parce qu'on pourra mettre
le
tout ce que...
Le référendum d'initiative citoyenne,
les quatre référendums d'initiative citoyenne, dans lequel on pourra mettre absolument toutes les revendications, dont Vincent,
c'est Olivier.
Olivier, pardon,
Benjamin à Toulouse.
Toutes leurs revendications sont absolument légitimes, mais on obtiendra absolument de mettre à notre initiative et à long terme de pouvoir mettre tout ça. C'est ce que dit Étienne Chouard. Il faut écouter Étienne Chouard.
Qui est Étienne Chouard?
Étienne Chouard, oui. c'est celui qui est considéré comme le père du RIC. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, mais il est le premier à le dire. Donc le père du RIC, et intéressez-vous à ça, et c'est par là que ça passera.
Bon, on s'y intéresse,
c'est
on
par
a
là
fait plusieurs
que,
émissions
c'est
sur
par
le
là
sujet.
Que la paix pourra revenir. Si, moi, il y a deux solutions.
Et comment on ne sape pas le travail parlementaire, c'est ce qui est intéressant aussi, hein, parce qu'il en a mis les contours justement du référendum d'initiative citoyenne.
Il n'est pas question de remettre en cause la représentativité, il est question de redonner aux citoyens l'initiative de remettre un peu le nez dans les affaires publiques justement.
Oui, car vous avez envie justement.
On a envie de vivre politique, tout simplement.
Vous voulez
qu'est-ce que ça veut dire avoir envie de la politique?
Non, mais on a envie d'être intégré aux affaires publiques. Vous n'allez pas reprendre tous mes propos.
On entend bien que le mouvement des Gilets jaunes veut reprendre l'initiative sur la politique parce qu'effectivement, ce qui avait été dit, c'était qu'il y avait une défiance vis-à-vis du pouvoir depuis longtemps. Mais il est vrai que la question qui va crisper, c'est l'aspect révocatoire ou pas du référendum.
Mais je vous donne la parole juste après la pause.
Oui, on peut en parler.
Selon un sondage OpinionWay pour LCI, 56% des Français soutiennent toujours les Gilets jaunes. Mais 70% estiment que le grand débat national ne répondra pas à leurs préoccupations. Est-ce aussi votre sentiment? N'hésitez pas à nous appeler au standard d'Europe 1, le 39-21. Wendy Bouchard.
On vous donne la parole et vos témoignages éclairent cette actualité, comme nous donnons la parole à différents Gilets jaunes. Aujourd'hui, Sylvain Petit, pianiste et chanteur, ici avec nous à Paris. Francis Di Giorgio, dans un instant, qui nous attend à Brionne, dans l'heure. Réjeanne, qui est à Nantes. Olivier Bruno, à Rouen. Alors qu'Emmanuel Macron prévoit un tour de France, certains appelaient ça un marathon Macron, je ne sais plus qui d'entre vous, à la rencontre des citoyens de l'heure au Lot face à 600 maires, comme celui de Saint-Cirgue, qui s'exprimait il y a quelques jours sur le principe du débat. Écoutez.
À travers ces cahiers de doléances, quand nous avons mis ça en œuvre, nous avons voulu vraiment libérer la parole des citoyens, les inviter à venir vider leur sac par écrit, plutôt que d'aller balancer des pavés et tout casser. Je pense qu'il y aurait aujourd'hui une contradiction à demander plus de démocratie participative, à ouvrir le dialogue, et en même temps, puisque vous êtes un adepte du « en même temps », ça serait de le refuser, parce que quand on le met en place, enfin, ça serait vraiment contradictoire. Mais je vous mets quand même en garde, Monsieur le Président, il ne faudra pas que ce débat devienne le grand bluff.
Voilà, que ce débat ne devienne pas le grand bluff. Alors vous étiez, Francis Di Giorgio, dans l'heure, face à Emmanuel Macron. C'est vous qui avez organisé avec les Gilets jaunes qui étaient autour de vous la rencontre avec le président en marge justement de cet échange face aux élus. Bonjour Francis.
Oui, bonjour, bonjour. Ben écoutez, en fait, nous avions été assez étonnés de voir qu'il se tenait tout près de chez nous, à quelques kilomètres de Brionne, un grand débat qui, en fait, a trouvé son origine dans le mouvement des Gilets jaunes, et que les Gilets jaunes n'y soient pas conviés. C'est quand même un petit peu aberrant, si encore je reste poli. Donc, nous avons essayé, et croyez-moi, ça n'a pas été facile, de demander audience via la préfecture, etc.
Oui.
Je passe les détails, ça serait trop fastidieux, pour être reçu par le président de la République et participer à ce débat pour que les Gilets jaunes soient inclus.
Mm-hmm.
Bon, ça n'a pas été tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais on a quand même été reçu par Madame Wargon et puis par le préfet. Et nous avons pu leur faire part de nos revendications, puis bien évidemment, ils n'ignoraient pas. Mais ça a été pour nous un geste fort, hein. Nous étions les premiers Gilets jaunes en France à être reçus par le gouvernement, et c'était tout un symbole, je pense aussi, de notre volonté de faire partie des débats, parce que le grand débat, c'est bien, mais le débat en lui-même, il doit être fait avec tous les participants, donc et notamment les Gilets jaunes, quels qu'ils soient, hein, notre groupe et d'autres groupes, tous les groupes, en fait.
Exactement.
Donc, c'est bien pour ça, cher collègue de Brionne, que nous sommes passés après vous. Bonjour, hein, tout d'abord, et bravo aussi pour vos actions. Toutefois, nous sommes passés en délégation un peu plus représentative derrière vous, face à Madame Wargon aussi et le sous-préfet qui était présent au mairie de Bourtroude, et avons avancé aussi des choses que Madame Wargon n'était même pas au courant de son président, c'est-à-dire que référente mise en place comme ça... de façon impromptue, au bout d'une semaine, ne sachant pas non plus toutes les démarches que les Gilets jaunes avaient pu faire, parce qu'il y a quand même une précision à donner, et je reviens dessus. Quand je vous parlais des institutions, il faut savoir qu'il y a le 1er décembre, nous avions été contactés par le chef de cabinet de M. Hervé Morin, président de région Normandie, comme quoi, justement, M. Emmanuel Macron avait demandé au président de région, justement, de contacter une représentativité de Gilets jaunes en Normandie, comme il l'a fait d'ailleurs avec d'autres présidents de région de France. Nous étions montés ce 1er décembre à l'Abbaye aux Dames à Caen, à l'hôtel de région, et nous étions 30 Normands confondus, tous départements, les 5 départements confondus, pour apporter les doléances des Gilets jaunes normands.
Voilà, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas entendu. Donc, il y a quand même des gestes réguliers, manifestes
il y a pas
du
retour,
gouvernement.
Le problème,
alors, mais
le
peut-être
problème
pas tout de suite
voilà,
de retour. Ça ne se fait pas. Oui. Mais laissez un peu de temps au temps. Là, il y a le débat qui se prolonge jusqu'au 15 mars. Après, il y aura une synthèse des débats. Peut-être qu'en avril, vous pourrez revendiquer.
Écoutez, moi, je vais vous dire franchement, je m'excuse par rapport au collègue de Brionne, mais il faut être clair. C'est de l'enfumage. Il enfume les maires comme il enfume les citoyens français depuis le 17 novembre.
Mais pourquoi considérer que tout est vicié? Vous voyez que tout est enfumage et ne pas laisser sa chance.
Les élections européennes, les élections municipales de 2020. Voilà, il prépare le terrain. C'est tout. On va mettre les Français. Il fait traîner les choses. Moi, j'ai parlé. On a parlé en délégation avec 5 autres de mes collègues. Avec Madame Wargon, il y a des leviers simples, directs, forts à faire. La baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. La baisse. On nous demande de manger 5 fruits et légumes par jour. On baisse la TVA sur les. Ça, ce sont des leviers directs. On attend des actes. On en a marre. On attend depuis
64 jours. Et on voudrait aussi que...
Nous avons fait la même demande auprès de Mme Wargon, si vous voulez. Nous avons considéré, si vous voulez, qu'il fallait un geste fort, mais même très fort, très rapidement, parce qu'en fait, on a été reçu le 15, mais il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui, dès le 15 du mois, n'ont plus les moyens de
finir. Absolument. Donc, je vous donne la parole dans un instant. On fait une petite pause, messieurs. On va parler des gestes forts que vous revendiquez, aussi bien à Paris, Sylvain Petit, vous allez nous le dire, le RIC, c'est vraiment quelque chose auquel vous êtes attaché. Et Michaël Darmon, vous allez analyser la situation vraiment, parce que le problème, ce sont les priorités et les multiples chantiers qui sont ouverts par-delà toute la France. Pierre-Henri, qui est citoyen, qui nous appelle de Saint-Herblain, veut aussi échanger avec vous. Je crois qu'il a beaucoup à dire sur votre mouvement. Il n'est manifestement pas tout à fait favorable aussi. A tout de suite sur Europe 1.
Pourquoi les Gilets jaunes continuent leur mobilisation ? On fait le tour de la question jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Et avec... vous enlevez votre gilet jaune, Sylvain Petit.
Je le mets là.
Parce que vous avez chaud.
Juste parce que j'ai chaud.
Vous poursuivez le mouvement, on m'a fait peur, d'accord.
Comme dans les voitures. Voilà.
Pensez-vous que ces manifestations de Gilets jaunes soient encore utiles ? Vous êtes 57% à faire encore confiance à ces mouvements, alors que le grand débat s'annonce et qu'une majorité de Français est un peu sceptique sur les contours de ce débat. On va revenir avec les Gilets jaunes sur les gestes forts qu'ils réclament au gouvernement. Ce qui est difficile, c'est de s'y retrouver en effet dans cette priorisation des chantiers. Ils sont multiples, Michaël Darmon, ce qui perturbe un peu notre appréhension des choses.
Oui, ce qu'on voit émerger maintenant, et à travers les propos d'ailleurs aujourd'hui à l'antenne, c'est vraiment maintenant l'émergence de deux écoles ou deux branches ou deux types de revendications. Deux niveaux de revendications. Vous avez le niveau sur la revendication politique et l'organisation de la démocratie avec les réformes autour du référendum d'initiative citoyenne, être capable de mettre en place un référendum révocatoire, ce que ne veut pas évidemment Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais le symbole le plus important, c'est révocatoire également.
C'est le plus représentatif pour le gouvernement en place.
C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est cet événement qui effectivement pose le plus de problèmes. Et ensuite, vous avez à côté de cela des demandes qui sont des demandes d'ordre plutôt au niveau social. On a entendu la pétition lancée par un des Gilets jaunes ce matin, donc ici à l'antenne, sur les retraites et sur la justice fiscale. On a entendu que les mesures en urgence demandées à Emmanuel Wargon par les Gilets jaunes reçus ont été d'ordre social et sur la TVA. Et donc en fait, on voit bien qu'il y a au fond une sorte de parallèle vis-à-vis de la lettre envoyée par Emmanuel Macron en français.
C'est-à-dire que on est bien d'accord. Ces deux branches sont complémentaires.
Non, j'entends bien, elles sont pas opposées. Moi, ce que je dis, c'est que ce que je vois là, c'est l'installation également d'une revendication parallèle aux questions posées dans le grand débat par Emmanuel Macron, qui lui a détaillé 32 questions parfois très importantes sur la gouvernance, mais qui, ne rencontre pas aujourd'hui d'écho vis-à-vis des Gilets jaunes, qui, elles, veulent autre chose. Par exemple, la question posée par Emmanuel Macron sur les services publics à supprimer, sur l'immigration, le choix d'immigration, n'est pas repris par les Gilets jaunes.
Donc là où aujourd'hui, c'était maladroit de la part...
Je ne sais pas si c'est maladroit. Oui. En revanche, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un problème, un hiatus entre la demande et l'offre.
Oui, avec finalement un débat qui aurait pu être orienté, mais qui ne le sera pas, parce qu'il s'est dédié un petit peu, Emmanuel Macron, en disant qu'il n'y aura pas de question de tabou, il n'y a pas de totem ni tabou, y compris sur l'ISF.
Mais en revanche, l'ISF, on touche pas. Donc évidemment, mais c'est un exécutif qui cadre.
Excusez-moi, j'ai perdu un petit peu ce que vous disiez sur l'immigration. Qu'est-ce qui n'a pas été repris par les Gilets jaunes ?
C'est-à-dire qu'on entend dans les revendications qui aujourd'hui sont reprises, on entend moins ce sujet. J'ai pas dit qu'il n'est pas important pour vous.
Qu'est-ce que propose
Il a proposé dans la lettre, il a proposé la manière ou pas de réorganiser l'immigration selon des quotas.
Pierre-Henri est avec nous de Saint-Herblain. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Je crois que vous vouliez profiter de cette antenne pour converser ou interpeller les Gilets jaunes qui sont à votre écoute, à la fois dans l'heure, à la fois à Rouen et à la fois en studio depuis Paris. Pierre-Henri, on vous écoute.
Oui, c'est plus les interpeller que converser, puisque j'ai remarqué qu'à chaque fois que vous preniez une position un petit peu contre, vous faisiez couper la parole et on parlait de complot. Donc, je voulais juste leur demander quelle était, à leurs yeux, leur légitimité économique pour pouvoir affirmer que telle ou telle mesure, que j'attends toujours d'ailleurs, permettait de résoudre les problèmes de la France. Je suis chef d'entreprise, je dirige 3 entreprises et je considère que je n'ai pas cette vision globale et nationale pour pouvoir préconiser des mesures. Or, pour mettre en place des mesures, il faut commencer par faire des économies ou prendre sur certains postes. Et quels sont les postes? Je leur demande pas de dire qu'il faut prendre aux riches, parce que ça c'est complètement vague, mais quelque chose de concret.
Mais oui, alors on peut vous laisser
mais
la parole,
ça,
Sylvain.
On peut en débattre, on peut justement débattre.
Alors, débattre, mais sans débat national.
Vous parlez de légitimité, vous avez parlé de légitimité économique.
Oui, quelle est votre légitimité? Vous n'êtes pas économiste, Sylvain Petit, pas plus que je ne le suis,
pour dire que s'il y a tel cap... Parce que, c'est pas la même chose. Quelle légitimité économique? Je vous l'ai dit, la légitimité économique, c'est que la plupart des gilets jaunes sont les gens qui produisent les richesses de ce pays. Voilà, ni plus ni moins, hein. D'accord.
Bah oui, mais
alors je
ne
dis pas que
les
chefs d'entreprise produisent, les chefs de ce pays aussi font partie. C'est toute la créativité et la richesse produite par la créativité de tout un chacun, comme vous, comme vous.
Est-ce que ça nous donne
comme
le droit de définir
moi,
les axes
non,
économiques
comme madame aussi, j'ai oublié le nom, excusez-moi, parce que je suis pas un peu...
Julie
un
peu et Michael Darmon.
Voilà. Tout le monde produit, voilà, et le partage des richesses est quand même complètement inégalitaire, de façon monstrueusement inégalitaire. C'est ça qui est à remettre en cause, et c'est ça que justement on pourrait remettre en cause carte sur table avec un hérissé, par exemple.
Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne. Mais alors, hiatus quand même. On débat pas sur de ces questions importantes. Pierre-Henri, vous restez en ligne.
Mais on demande que ça de débattre réellement.
Oui, mais sans débat national. Emmanuel Macron
comme il veut.
D'accord. Francis Di Giorgio et Olivier Bruno de Rouen et de l'Eure, vous allez répondre à Pierre-Henri. Pourquoi vous sentez-vous investi de cette mission et considérez-vous que vous avez, vous, comme d'autres citoyens, la science infuse pour dire que telle piste économique est la bonne pour sauver le pays? Alors, personne n'a
qu'on réfléchisse tous ensemble. Et c'est bien ça que permettrait le RIC, justement.
À tout de suite sur Europe 1.
Quel sens donner aujourd'hui aux mobilisations des Gilets jaunes et à la persistance de leur mouvement qui, depuis deux mois, rythme les samedis dans des dizaines de communes de France? Wendy Bouchard.
Et la parole est à Pierre-Henri qui nous appelle de Saint-Herblain. Il est chef d'entreprise et il interpellait les Gilets jaunes ici présents. En quoi vous sentez-vous légitime, leur demandait-il, pour réformer le pays économiquement? Je voudrais que vous relayiez cette question, Francis Di Giorgio, vous qui êtes porte-parole des Gilets jaunes dans l'Eure à Brionne.
Oui, ben merci. Ben écoutez, je voudrais également répondre à ce chef d'entreprise, puisque dans ma carrière, j'ai eu une période chef d'entreprise aussi, donc je connais aussi bien le problème. La proposition que nous avons faite à Madame Vargon, elle est simple, elle rejoint la demande initiale du mouvement des Gilets jaunes, bien évidemment, c'est le pouvoir d'achat. Et la chose très symbolique que nous avons demandé, mais qui va toucher tout le monde, le particulier, vous, moi, le chef d'entreprise qu'on vient d'entendre, tout le monde, c'est de dire les produits, si vous voulez, pétroliers et notamment les carburants, qui ont été quand même ce qu'on mis au poudre au départ de ce mouvement, doivent être considérés comme des produits de première nécessité. Je considère que il est anormal qu'aujourd'hui le lait, l'eau soient taxés à 5,5% de TVA et qu'on ait sur la TICPE plus de 60% de taxes. Donc on a demandé à M. Vargon de faire un geste fort, mais très rapide, qui touchera le budget de tout le monde à la fin du mois, c'est de baisser, mais de manière très notable, la taxe sur les carburants. Parce que ça touchera tout le monde, ça relancera l'économie pour les chefs d'entreprise, ça arrangera le budget de tout le monde à la fin du mois. Et croyez-moi, c'est très facile à faire. C'est un décret, il suffirait que...
C'est des leviers, c'est ce que nous avons dit tout
Olivier
à l'heure.
Olivier Bruno, de Rouen.
Malo,
oui. Oui.
Mais c'est
Pierre-Henri, vous êtes avec nous là.
Rapidement.
Oui. Allez-y Pierre-Henri.
Oui, c'est ce qu'on entend depuis le début, c'est-à-dire des dépenses, des diminutions de recettes pour l'État. Maintenant, j'aimerais savoir comment il finance toutes ces mesures et qu'est-ce qu'il propose de concret. Si on doit prendre sur des postes, sur quel poste on prend? Est-ce que l'intermittent du spectacle est d'accord pour qu'on prenne sur
le CICE? Le CICE,
je
monsieur.
Je sais pas, moi j'ai pas la solution. On rentre déjà dans le cœur d'un débat qui est particulier. Parce qu'il y a 4000 mesures d'urgence.
Donc on est bien d'accord qu'il faut des experts et des professionnels ensuite pour
écoutez,
gérer.
Wendy,
oui, Olivier Bruno. Wendy. Non mais répondez concrètement
à ce
que demande Pierre-Henri.
Sur les produits premières nécessités comme le carburant, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai pas envie de rentrer. À la limite, j'ai pas envie de rentrer dans un débat là-dedans maintenant. C'est pas ça la question de base pour envoyer les gilets jaunes chez eux. Il suffira pas de baisser la TVA sur les produits de première nécessité.
Je n'ai pas dit que ça serait suffisant. C'est un geste fort pour montrer la bonne volonté du gouvernement.
D'accord, Olivier Bruno.
Un geste fort, moi je suis pour.
S'il vous plaît.
Si le gouvernement fait ça, ça sera bien.
S'il vous plaît, Sylvain.
Ça suffira pas.
Olivier, pour répondre à Pierre-Henri de Saint-Herblain, qui s'inquiète de votre légitimité à porter ces sujets.
Et c'est tout légitime de Pierre-Henri. Bonjour, monsieur. Concrètement, on a apporté aussi des éléments à Madame Wargon. Quand vous voyez que le CICE, c'est 99% des richesses qui sont données aux grands groupes qui licencient à tout va. Vous avez les plus grands scandales, Carrefour, Vivart, tout ça. On a appuyé justement, nous avons des chefs d'entreprise sur les ronds-points, tout autour de Rouen. Il y a vraiment une mixité sociale énorme. Quand vous voyez que l'artisanat, qui est quand même, pour avoir travaillé avec la CMA, la Chambre des métiers et des artisans, quand vous voyez que c'est quand même le premier employeur de France, et justement des structures que nous côtoyons, qui sont obligées, ils ont même du mal à garder un apprenti, parce qu'ils sont complètement étouffés par l'URSSAF et autres, et on vient pas, on vient donner des subventions aux grands groupes
donc
qui
vous,
licencient,
donc vous avez...
et on ne laisse pas les petits
vous avez enquêté
en
local et vous pensez aussi avoir ces solutions. Jean-Seb Desmarais nous dit, si j'entends bien ce que vous dites aujourd'hui dans cette émission, le RIC c'est la solution pour tout, le chômage, les inégalités sociales, la fiscalité,
terme,
l'immigration.
Oui,
et il le dit avec beaucoup d'ironie malheureusement, hein, parce
qu'il
n'y a pas de solution
bien,
miracle.
Ça devrait être l'objet principal de débat actuel.
Réjeanne.
La modification de l'article 3 de la Constitution tel que le préconise Étienne Chouard. Qu'on s'intéresse à ça, alors là, il y aura un vrai débat qui s'ouvrira pour ouvrir tous les restes, que ce soit la baisse
encore
de la TVA.
Encore faut-il que vous acceptiez
vous
justement les termes du débat, Michaël Darmon.
Ah ben non, on ne l'accepte pas parce qu'ils ne sont pas posés. Et le RIC ne fait pas partie des sujets à aborder. Alors il faudrait quand même savoir.
Il le sera, mais de manière encadrée,
voilà,
Michaël Darmon.
C'est tout l'enjeu effectivement de ce grand débat qui est posé par Emmanuel Macron, qui est censé trouver donc, de ce point de vue-là, une issue à la crise des Gilets jaunes. Si à la sortie de ce grand débat, il y a effectivement, comme on l'entend beaucoup, une décision au fond de poser un référendum sur la table. Lequel sera-t-il? Comment sera-t-il accepté? Quelle question sera posée? Et surtout,
j'en suggère une, si vous voulez, de questions à poser. Êtes-vous d'accord avec telle modification de l'article 3, éventuellement de l'article 11, que je ne connais pas par cœur, hein, les articles, il faudrait revoir de la Constitution actuelle.
Oui, sur les
est-ce que vous seriez d'accord
partagé,
sur la modification de l'article 3, tel que le préconise Étienne Chouard, avec ses ateliers constituants qui...
Abroger le travail des parlementaires, on a du mal à comprendre le sens de la construction des
décisions. Ça nous amène effectivement à faire un référendum sur le référendum, comme disait François Mitterrand, c'est aussi parfois un problème. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas d'issue politique trouvée par l'exécutif, alors il faudra passer à autre chose.
Merci Michaël Darmon, merci à Olivier, à Benjamin, à Sylvain, à Francis, à Réjeanne qui était avec nous un peu partout en France. On aurait souhaité vous donner un peu plus longuement la parole, mais le temps passe vite et puis il nous faut aussi comprendre la structuration de vos paroles qui est parfois un peu difficile à comprendre dans l'organisation. Mais merci d'avoir été présent en tout cas. On se retrouve dans un instant pour parler solidarité, une autre forme de solidarité avec l'opération Pièce Jaune. On en fête les 30 ans, en légère baisse les dons avec la hausse de la CSG notamment, mais qui repart au gré des différentes cagnottes lancées pour des causes variées. On fait le tour de la question jusqu'à 11h. Merci.